pour une écologie numérique avec Éric Vidalenc.
Merci. Merci pour l'invitation, la présentation. Et puis, je m'excuse et désolé pour ce retard. Merci du coup d'avoir patienté. Alors, je vais vous présenter quelques éléments issus de mon analyse présente du coup dans mon livre pour une écologie numérique, publié fin 2019. Moi, je ne suis pas un spécialiste du numérique. En fait, je me suis intéressé au numérique il y a quelques, allez, une demi-douzaine d'années maintenant. Je suis un spécialiste de l'énergie. Et c'est en m'intéressant à l'avenir, à la manière de consommer l'énergie demain, que du coup, j'ai été amené à m'intéresser au numérique. Parce que il nous permet, le numérique peut nous permettre de consommer beaucoup plus vertueusement, mais il peut aussi constituer une grande partie continuer à accentuer le problème. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire dans mon analyse, de voir les deux côtés. En quoi le numérique est porteur de promesses, et en quoi aussi il est porteur de pas mal de problèmes tels qu'il est déployé et mis en œuvre aujourd'hui. Je me présente du coup un peu plus. Le début de ma réflexion, en fait, je l'ai développé sur mon blog chez Alter Echo. J'ai un blog chez Alter Echo depuis 2012 ou 2013, sur lequel j'ai commencé à écrire quelques billets sur ces sujets-là. Et puis, c'est de fil en aiguille que je me suis dit, tiens, après avoir été invité à différents endroits pour parler de choses que j'avais écrites, où je me suis dit, ça vaudrait peut-être le coup d'en faire quelque chose de rassemblé dans une forme livresque. Donc j'écris régulièrement, même si ces derniers temps c'est un peu plus compliqué, mais j'essaie d'écrire régulièrement sur mon blog chez Alter Echo. Je suis conseiller scientifique de Futurible, qui est un think tank de prospective. Et puis au quotidien, je travaille à l'ADEME. Voilà. Donc ça, c'est mes différentes casquettes. La lecture que je porte dans mon livre, c'est une lecture personnelle, mais je dis d'où je parle et les acteurs avec qui je travaille et je collabore régulièrement. Ceci étant dit, donc où j'essaie de me placer pour analyser la question numérique. Alors d'un côté, il y a ce que je qualifierais de les technophiles ou les techno-optimistes, à la Jérémy Rifkin un peu, qui nous disent en gros dans le discours de la troisième révolution industrielle, c'était le titre d'un de ses ouvrages il y a quelques années. En fait, dans un grand élan de modernisation, on va mettre des objets connectés partout. Ça va permettre d'optimiser les logements, de produire de l'énergie, de la partager avec son voisin, d'optimiser les systèmes de transport, etc. Et cette interconnexion de l'Internet des objets va en gros résoudre la question écologique. On remplira mieux les camions, on chauffera mieux les logements, etc. Donc c'est ce que je qualifie un peu de techno-optimiste. D'un côté, on a ça. De l'autre côté, on a Philippe Biwix ou Éloi Laurent, qui sont plutôt technocritiques, dans le sens où ils nous disent, Rifkin, ce qu'il nous dit, c'est bien gentil, mais en fait, il n'a jamais mis les pieds dans une mine, donc il ne sait pas concrètement quelle est la matérialité de tout ce qu'il décrit. Et donc, il faut construire des systèmes très différents. Rifkin nous parle d'high-tech, Biwix a écrit un bouquin assez connu désormais, L'âge des low-tech, publié il y a 2 ou 3 ans. Et Éloi Laurent, qui est un économiste français de l'OFCE, un peu dans la même veine, moins technique, plus économique, mais avait fait quelques sorties, une tribune il y a un an ou deux, nous disant en fait il faut qu'on se passe du numérique. Parce que le numérique, il nous détourne des vrais sujets qui sont les nôtres aujourd'hui, que sont les sujets écologiques et sociaux. On passe trop de temps, trop de moyens dans la transition numérique, alors que c'est pas ça. Il y a aucune urgence à faire la transition numérique, en fait. Alors moi, j'essaie de me situer entre ces deux pôles. Évidemment, je caricature un peu leurs propos quand je dis ça, hein, mais entre ces pôles très technophiles et technocritiques, je pense, et d'une, qu'on ne peut pas se passer le numérique aujourd'hui. en 2020, on ne peut pas dire il faut imaginer une société sans numérique. En tout cas, on ne peut pas l'imaginer à un horizon de court terme. Parce qu'on est dans ce que Illich qualifiait dans les années 70 de monopole radical. C'est-à-dire qu'à un moment dans la société, il y a des objets, des systèmes techniques qui sont devenus tellement omniprésents qu'on ne peut plus fonctionner sans. C'est le cas de la voiture, par exemple. Vous pouvez individuellement choisir de vivre sans la voiture. Sauf que les villes sont façonnées pour la voiture. Le trottoir, l'espace qui vous est laissé en tant que piéton, il est défini par l'espace qu'on attribue à la voiture, qui est l'espace prédominant aujourd'hui. Et de la même manière, vous pouvez choisir de ne pas avoir de smartphone, de ne pas avoir de connexion Internet chez vous. Mais la société a fait le choix du numérique, et donc c'est ce que je qualifie, en référence à Illich, de monopole radical. Donc il nous faut acter de ça. Si on était en 2010 ou en 2000, évidemment les choses seraient différentes. On ne serait pas tous avec un smartphone dans nos poches. Je dis tous, il y en a peut-être qui n'ont pas de smartphone ici dans la salle. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de... Ah, ouais. Ni smartphone, ni téléphone. Bon, mais ça fait quand même 5% de la salle sans smartphone. et sans téléphone, je dirais 2% à peu près. Donc, on voit à quel point c'est devenu un phénomène de société. Et même si a priori vous êtes là, c'est que vous vous interrogez quand même un petit peu sur toutes les questions écologiques liées au numérique. Donc, même auprès de public, on va dire, qui se pose des questions, c'est devenu un fait quasi incontournable. Donc en ça, je pense qu'il faut acter de cette dépendance. Et après, on peut se poser des questions sur comment on la réduit, cette dépendance. Comment on fait que ce numérique soit vraiment au service de la transition écologique. Et ça, c'est ce que j'essaie de développer dans les pistes de mon ouvrage. Mais j'essaie toujours de bien voir les deux côtés de la médaille. Je m'intéresse, donc là, on est dans une conférence sans support, c'était la règle. Donc vous n'allez pas avoir d'illustration graphique. Mais sinon, parmi les choses que j'utilise pour illustrer un peu mon propos, il y a les œuvres d'un artiste plasticien, Dadav, vous pouvez aller sur son site, vous le trouvez facilement sur Internet, qui utilise des composants électroniques pour figurer plein d'objets. Et je trouve que ça représente bien un peu la matérialité des systèmes numériques qui sont aujourd'hui omniprésents. Quand on parle de la smart city, par exemple, de la ville connectée, c'est une ville bourrée de capteurs, de data centers et de réseaux partout. Sauf que ces choses-là, souvent, sont invisibles, mais elles ont une matérialité bien concrète. Donc ça, évidemment, j'essaie d'en tenir compte. Et de l'objectiver, et de dire c'est quoi cette matérialité du numérique, c'est quoi les problèmes écologiques que ça pose. Et en même temps, de l'autre côté, j'essaie de regarder ce que le numérique nous permettrait de faire. Même si pour le moment, c'est plus des promesses que des réalités. Mais le numérique, il peut quand même être très prometteur. On verra après un peu dans le détail, sur plein de manières de produire et de consommer différemment. Et pour paraphraser, alors toute proportion gardée, là, ça fait partie d'autres choses que j'utilise, notamment des tableaux de Soulages. Soulages, en fait... il dit je peins pas le noir, je m'intéresse pas au noir, je m'intéresse pas à la couleur, je m'intéresse à ce que le noir fait à la lumière. Et un peu de la même manière, je m'intéresse au numérique, pas en tant que tel, ou en tout cas on peut s'y intéresser un moment, mais ce qui m'intéresse dans le numérique, c'est ce que le numérique fait à la société, et nous fait, et nous permet de faire. Et en ça, je trouve que c'est plus intéressant et prometteur. Donc voilà un peu posé le cadre de ma réflexion, d'où je parle, où j'essaie de me situer par rapport à d'autres auteurs qui réfléchissent sur ces questions-là. Et je vous propose du coup de rentrer un peu dans le cœur du sujet et puis d'échanger après. La transition écologique, si on devait la simplifier, la définir de manière simplifiée aujourd'hui, c'est une transition qui a un but mais qui cherche ses moyens. Ça me semble vraiment important. Et notamment, si on la résume, ce qui est évidemment imparfait, mais ce qui permet quand même de saisir un peu les ordres de grandeur et qu'est-ce qu'il faut réellement que l'on fasse collectivement, si on la résume à la question climatique, c'est atteindre la neutralité carbone en 30 ans. Donc dans un système énergétique qui dépend à 80% d'énergie fossile, on voit la marge que ça représente. 30 ans, c'est extrêmement court à l'échelle du système énergétique. Et le dernier rapport du GIEC de 2018 nous dit que le point de passage 2030, il est extrêmement important, parce que sinon on va passer des niveaux de concentration dans l'atmosphère trop élevés. Donc il faut, d'ici 2030, réduire de 45%. Pour faire simple, j'aime bien dire on a 10 ans pour diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre. Là au moins les choses sont posées. Ça ne résume pas toute la question écologique, mais ça permet quand même de représenter l'ambition qu'on doit avoir. 10 ans, c'est extrêmement court. Et diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre, donc de manière un peu rapide, la conso d'énergie fossile, on voit quelle est la hauteur de la marche. Donc ça, c'est la transition écologique, résumée à la transition numérique. Une finalité, des objectifs posés dans le temps, mais pas toujours de moyens. On cherche, il faut faire un peu de renouvelable, il faut consommer un peu moins, il faut partager un peu plus les véhicules. Mais en fait, on a du mal à vraiment dessiner des moyens, des politiques et mesures à la hauteur de ces enjeux-là. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? On a la transition numérique, qui est une des grandes forces de transformation de nos sociétés aujourd'hui, une des grandes forces de modernisation. Ce qui s'est passé en 20 ans est proprement époustouflant. Je veux dire, quand on regarde l'accès à la connaissance qu'on a avec le numérique, la mise en connexion avec des personnes à l'autre bout du monde qu'on ne connaissait pas, mais avec lesquels on va rentrer en relation pour voyager, pour échanger, pour avoir accès à de la connaissance. Enfin. Donc tout ça, c'est le bon côté du truc. Et en même temps, le revers, entre guillemets, matériel de ça, c'est aujourd'hui 30 milliards d'objets connectés dans le monde. Donc ça comprend les smartphones, évidemment, et ça commence à comprendre des frigos connectés, des toilettes connectées, des télés connectées. Bref, on connecte tout, quoi. Et puis, si on regarde ce que les projections de l'AIE, par exemple, nous disent, à un horizon de 5 ou 10 ans, on va atteindre très rapidement plus de 100 milliards d'objets connectés. Quoi. Donc des objets qui sont censés communiquer entre eux pour un meilleur fonctionnement, une optimisation. Donc on voit que tout ça, en fait, s'est développé parce que ça s'inscrit dans un grand courant de modernité. En fait, il n'y a pas grand monde en termes de politique ou d'entreprise qui se pose en faux par rapport à ça. Si, il faut numériser, il faut s'inscrire dans la révolution, dans la transformation digitale. Et ça, je pense, c'est vraiment le point de départ important que moi je posais à acter. C'est on a deux grandes transformations qui sont à l'œuvre et qui sont en partie à réaliser encore devant nous. Mais ces deux grandes transformations, elles ne sont pas du tout interconnectées aujourd'hui. Et l'enjeu, c'est d'essayer justement de voir comment on peut les réconcilier, parce que le numérique, il amène plein de choses extrêmement intéressantes. Je les ai évoquées rapidement, hein, l'accès à la connaissance, ce qu'on peut résumer sous l'économie collaborative, les nouveaux processus de participation dans des modes de démocratie un peu renouvelée, mais en même temps il y a toute une question écologique qui a été totalement occultée jusqu'à aujourd'hui, et c'est lié à plusieurs choses, mais je pense qu'une des un des éléments qui a concouru à ça, c'est la terminologie et la sémantique qui me semble important. Le fait qu'on ait parlé de dématérialisation depuis le déploiement du numérique, en fait, ça a concouru à ça. Vu qu'on dématérialisait l'économie et les services, évidemment que c'était mieux pour l'environnement, puisque a priori ce qui est matériel, c'est ça qui a un poids. Sauf que quand on fait de la facture numérique, ben on va la stocker dans un data center. Donc on n'a plus de feuilles de papier. Mais est-ce que pour autant le fait d'avoir une facture qui soit stockée dans un data center sur son PC, à côté de chez soi ou à l'autre bout du monde, est-ce que ça c'est vraiment dématérialisé ? Non, ça repose sur toute une infrastructure numérique, des PC, des câbles, des réseaux, des routeurs et des data centers qui vont fonctionner grâce à des systèmes électriques et des usines, etc. Donc c'est pas du tout une dématérialisation, c'est une rematérialisation, une délocalisation des impacts. Mais cette terminologie, je pense qu'elle a quelque part retardé notre prise de conscience. Là, depuis quelques années, on a vraiment des choses qui sont mises en visibilité par des acteurs comme Green IT, par le Shift, par Shift Project, le think tank, ou par l'AIE. Merci. Donc on commence à vraiment mettre des ordres de grandeur sur ce poids écologique et environnemental, mais on part de très très loin. Et du coup, on pose ces ordres de grandeur globaux Mais si on veut donner des messages un peu simples et clairs à chacun, c'est loin d'être simple. Pourquoi ? Parce que c'est plus compliqué d'évaluer le poids environnemental d'un service numérique que d'évaluer le poids environnemental d'un kilomètre fait en voiture. De manière triviale, j'ai rentré un peu dans cet exemple. Le poids de votre kilomètre fait en voiture, le poids environnemental, l'impact environnemental, 90% de cet impact, c'est lié à l'usage. C'est le carburant que vous allez consommer dans votre voiture. Donc c'est simple. Après, il y a la fabrication de la voiture. Mais une voiture, c'est utilisé à peu près sur 200 000 km, au moins en France. Donc c'est amorti sur une très longue durée de vie. 200 000 km, 15 ans. En moyenne, c'est ça la durée de vie des équipements en France. Donc ça, vous avez cet objet-là d'un côté. De l'autre côté, vous avez par exemple un smartphone. Les smartphones, ils sont gardés en moyenne 2 ans en France. Ça a diminué, c'est en train de réaugmenter un peu. Est-ce que c'est parce que ça commence à coûter trop cher ? Que les smartphones à 1000 euros, ça commence à faire un peu, que les gens commencent à être sensibles aux messages environnementaux, écologiques, leur disant « gardez votre smartphone », parce qu'on les recycle peu, on les recycle mal, parce que le principal poids environnemental, il est dans le smartphone. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est vraiment ça l'autre. Donc, comparons la voiture au smartphone. Le smartphone, 80%, 90% de son poids environnemental, il est dans sa fabrication. Donc vous voyez, on a deux rapports qui sont totalement opposés entre le service numérique d'un côté et le service de mobilité de l'autre. Et une fois qu'on a dit ça, ensuite, selon les manières dont on va consommer sur son smartphone, est-ce qu'on est par exemple en 4G ou est-ce qu'on est en Wi-Fi ? Si on ne parle pas de smartphone, mais de tablette ou d'un PC, est-ce qu'on est en connexion filaire ou en connexion sans fil ? Est-ce qu'on est avec de la fibre ou avec de l'ADSL ou avec de la connexion cuivre ? On a des rapports qui sont d'un facteur 1 à 10. Donc tout ça pour illustrer le fait que c'est extrêmement difficile de dire, vous particulier, faites ça. On peut vous dire dans la mobilité, plutôt que de prendre votre voiture, prenez les transports en commun, prenez votre vélo, partagez votre voiture, faites du covoiturage. On sait bien qualifier ces impacts-là. Les impacts du numérique, aujourd'hui, on commence à avoir une image globale de ce que ça représente. À l'échelle mondiale, c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus que le transport aérien. Donc on voit que c'est tout sauf négligeable. Néanmoins, à l'échelle individuelle, c'est compliqué de vous dire exactement ce qu'il faut faire. Et on est en train, avec différents acteurs, il y a l'ARCEP, l'autorité de régulation, l'ADEME, le Conseil national du numérique, qui vient de voir donner une mission par les ministres pour écrire une feuille de route pour rendre le numérique plus écologique. Donc on commence à s'en saisir, mais voilà, on part de loin, et du coup, c'est pas simple de dire exactement quel est le poids écologique, environnemental d'un service numérique donné. Une fois ces éléments posés, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Ça, c'est en gros les éléments que je présente dans le cadrage de mon ouvrage. Après, ce que j'essaie de faire, c'est de dire, regardons objectivement les choses. Le numérique nous permet quand même de faire plein de choses de manière plus efficace aujourd'hui. Si on regarde dans la mobilité, dans la production agricole, dans les logements, le numérique nous permet d'optimiser plein de systèmes. Comment ça se passe ? Par exemple, dans votre logement, vous pouvez, sur votre chaudière, votre pompe à chaleur ou autre, avoir un dispositif qui fait qu'avec votre smartphone, vous allez piloter votre chauffage quand vous n'êtes pas chez vous. Bon, c'est pas mal, ça permet de couper le chauffage quand on est absent, quand on est chez des amis, en week-end ou autre. On va avoir quelques 10-15%. Dans les meilleurs cas, on arrive à simuler jusqu'à 30% d'économie. C'est pas rien. C'est pas juste l'épaisseur du trait, mais c'est pas non plus absolument considérable. Quand on regarde des dispositifs d'aide à la conduite, on arrive aussi à simuler des gains qui sont de l'ordre de quelques pourcents. De la même manière, dans le monde agricole, quand on regarde ce que l'agriculture connectée ou le SIG nous permet de faire, on est capable d'amener les intrants ou les traitements au meilleur moment sur les cultures, donc d'optimiser les productions. Mais là aussi, on peut se poser la question, est-ce que tout ça est bien à la hauteur en fait, des enjeux que je vous donnais tout à l'heure ? Si on se dit qu'il faut diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre, ou en gros notre impact écologique en 10 ans, est-ce qu'avoir des gains de 10 ou 15% avec en plus du numérique qui continue à se développer partout ailleurs, hein, les taux de croissance du numérique aujourd'hui, on est entre 5 et 10% selon les années. Il n'y a aucun autre secteur qui croît dans de telles proportions. Donc est-ce que c'est bien à la hauteur des défis ? Il nous faut diviser par deux notre empreinte écologique en gros. Et en face, on a un secteur numérique qui croît de 5 à 10% par an, et puis dans certains cas, qui permet de faire quelques économies. Bon, mon constat, c'est que on n'est pas au rendez-vous, quoi. Okay, ça permet d'optimiser des systèmes. Et il faut regarder honnêtement les choses, ça permet d'optimiser plein de systèmes. Sauf que la question, c'est pas celle-là. La question, c'est de transformer nos systèmes productifs et nos systèmes de consommation. Et donc, on prend les choses, selon moi, dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'avant de transformer nos systèmes, on les optimise. Sauf que nos systèmes énergétiques, ils sont inefficaces. On a des pertes dans les réseaux, on a des pertes, les voitures. Une voiture, c'est quand même une tonne et demie d'acier qui circule remplie à 20% et qui est à l'arrêt 95% du temps. Objectivement, c'est ça une voiture aujourd'hui. Donc vous voyez, une fois qu'on a dit ça, se dire qu'on va optimiser ce truc-là, on voit que c'est pas vraiment à la hauteur du défi. Il faut d'abord faire des voitures plus petites, il faut mieux les remplir, et après, on peut connecter, faire de l'aide à la conduite, etc. Mais ça vient dans un second temps. Donc ça, c'est vraiment important, il me semble, de dire avant d'optimiser les systèmes techniques, il faut les transformer. Avant de piloter son chauffage à distance quand on n'est pas là, il faut isoler correctement sa maison, voire changer de système de chauffage pour passer à des systèmes, par exemple, renouvelables ou décarbonés. Et une fois qu'on aura fait cette grande transformation, là, on pourra optimiser. Mais l'exemple du logement, il est assez frappant. Si vous isolez correctement votre maison et que vous mettez une chaudière plus efficace, vous allez diviser par 4 ou 5 votre consommation d'énergie. Si vous pilotez votre chauffage à distance, si vous gagnez 10-15%, c'est bien. Vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux et les mêmes gains potentiels. Et donc, c'est bien important de remettre les choses dans le bon sens. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dernier élément, et puis après, rentrer un peu dans le détail du coup dans ce que je propose pour essayer de voir comment on peut mettre le numérique au service de la transition écologique. Je fonctionne en gros en cercle concentrique. Tout d'abord, je pense qu'il faut mettre des limites au numérique. C'est-à-dire que la grande dynamique dans laquelle on est lancé, où on colle du numérique partout, en pensant que c'est normal, que ça permet de mieux faire les choses, de les optimiser, de les fluidifier, je pense que ça concourt clairement plus à aggraver le problème qu'à le résoudre. Une anecdote que j'aime bien citer, en fin d'année dernière, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale qui était porté par des députés d'opposition qui visait à interdire les écrans dans les toilettes publiques. Il y a plusieurs bars et cafés où vous avez des écrans qui sont posés au-dessus des urinoirs pour hommes, qui visent à vous mettre de la pub, en fait, même quand vous allez aux toilettes. Alors c'est à la fois anecdotique, parce que c'est quelques milliers d'écrans, et en même temps ça illustre cette prolifération d'écrans que vous avez aussi dans les gares. Il y a eu une tribune dans le JDD la semaine dernière, de plusieurs députés, sénateurs, collectifs, associations qui demandent à réglementer significativement cette prolifération d'écrans. Et je pense que ça, c'est vraiment un point important. C'est-à-dire qu'on aura beau dire tout ce qu'on veut sur il faut du Green IT, des logiciels éco-conçus, des smartphones recyclés, etc. Si on continue à en mettre partout, à avoir une prolifération qui, en plus, le cas que je prends pour la publicité, tout ça nous incitant à surconsommer, ou à consommer en tout cas de manière un peu plus intense encore, bon, on voit clairement que ça, c'est pas du numérique au service de la transition écologique, quoi. Donc cet exemple un peu caricatural et anecdotique, il permet d'illustrer un peu le débat et de dire il faut poser des limites au numérique. Il y a des endroits où le numérique il sert à rien, et voire même il y a plein d'endroits où il aggrave plus le problème plutôt qu'il apporte des bribes de solutions. Une fois qu'on a dit ça, il faut trouver les espaces pour avoir cette délibération. Alors il y a des acteurs associatifs qui portent ce débat, il y a des collectifs anti-pub, je vous disais, il y a des députés, des sénateurs qui ont signé une tribune la semaine dernière. Ça veut dire que ça se joue à différents niveaux, dans des instances très politiques, dans des instances associatives, citoyennes. Il y a des villes qui commencent à prendre des arrêtés sur ces questions-là. Bref, le débat est juste en train d'émerger. Et autour de la 5G, ce débat, il est aussi en train d'émerger. Parce que, et c'est notamment intéressant, j'étais invité il y a quelques semaines à Arrêt sur Image, et il y avait l'ARCEP qui était là aussi, donc le régulateur des télécoms, c'est lui qui distribue les fréquences, en fait. Et il disait, c'est vrai que autant il y a quelques années, on ne se posait pas vraiment ces questions-là. On disait, la 5G, elle arrive, c'est normal, c'est le progrès technique, bon, il faut l'accompagner, amener de nouveaux services. Et là, on voit vraiment dans la société ce questionnement qui émerge. Mais en fait, pourquoi ? Il y a plein d'applications de santé ou industrielles où la 5G va avoir un vrai intérêt. Mais globalement, en tant que citoyen, la 5G, à part télécharger plus rapidement notre vidéo pour la regarder dans un TGV ou dans un train ou en voiture, est-ce que ça, c'est vraiment à la hauteur des défis qui sont les nôtres aujourd'hui ? Parce que tout ça, ça veut dire l'obsolescence des terminaux qui sont les vôtres aujourd'hui, de nouvelles antennes à installer, au-delà de la question de savoir si la 5G permet de moins consommer ou pas, ce qui pourrait être le cas a priori. Après, il y a tout ce qu'on appelle les effets rebonds, mais en tout cas, ça veut dire renouveler toute l'infrastructure. Donc on voit qu'il y a vraiment un débat qui est en train de monter, et je pense que c'est important que chacun, citoyen, associatif, collectivité, entreprise, régulateur, se saisisse vraiment de ces questions-là. Et il devait y avoir un débat la semaine prochaine à l'Assemblée sur ces questions-là, bon, qui est annulé pour cause de coronavirus. Vous voyez ici, le débat a pu être maintenu. La semaine prochaine à l'Assemblée, il est annulé. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant et c'est vraiment en train de prendre, je pense. On n'a pas forcément les instances de délibération, les lieux de débat qui existent vraiment. Ils sont à penser. Mais ce débat commence quand même vraiment à prendre. Une fois qu'on a posé ses limites, ensuite, clairement, il faut que le numérique devienne plus soutenable. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des logiciels qui soient ce qu'on appelle éco-conçus. Aujourd'hui, les terminaux ont des capacités qui sont tellement considérables qu'on peut coder un peu n'importe comment. Et il vaut mieux le faire comme ça, parce que plutôt que de payer des programmeurs plus de jours pour qu'ils codent de manière efficace et sobre, il vaut mieux coder plus rapidement et les terminaux vont se trimballer des logiciels qui font des dizaines ou des centaines de mégas. Bon, vu qu'ils ont les capacités de mémoire, de microprocesseurs pour ça, c'est pas un problème. Il se pourrait que ça change dans les années qui viennent et on commence à avoir un vrai travail de toute une communauté, donc ce qu'on appelle Green IT, qui se mobilise là-dessus. Ça, c'est la partie, on va dire, immatérielle du numérique. La partie matérielle, en gros, vos smartphones, les antennes, les data centers, on est dans un des secteurs qui connaît les taux de renouvellement les plus rapides. Les smartphones, je vous le disais tout à l'heure, ils sont renouvelés tous les 2 ans en moyenne. Les data centers, c'est moins de 10 ans. Il y a des acteurs comme OVH qui disent, nous, on essaie au mieux de les réparer, reconfigurer pour augmenter leur durée de vie. Mais la plupart sont dans des rythmes de renouvellement très, très rapides. Donc il y a vraiment à s'interroger là-dessus, comme je vous disais tout à l'heure, parce que le principal impact environnemental, il est dans la fabrication. Donc il y a vraiment à s'interroger sur comment on augmente la durée de vie, la réparabilité et la seconde vie de ces équipements. Là aussi, il y a plein de choses prometteuses qui se passent. Il y a des entreprises, notamment françaises, qui travaillent avec des grands distributeurs comme la Fnac. Vous allez à la Fnac, aujourd'hui, vous pouvez acheter des produits qui sont reconditionnés, avec des garanties de 6 mois. Les produits d'apparence, ils sont quasi neufs. C'est plusieurs millions, aujourd'hui, de smartphones qui sont vendus comme ça. C'est de l'emploi local. On évite de réutiliser des ressources non renouvelables. Du coup, on amortit le poids environnemental sur plus d'années. Donc tout ça va dans le bon sens, c'est pas encore suffisant, mais on a des signes intéressants. Donc on voit que le numérique doit se transformer en tant que tel, du côté des logiciels et du côté de la dimension matérielle. Et pour ça, il y a tout un travail à faire sur la mise en visibilité des impacts environnementaux. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est aujourd'hui des choses qui sont compliquées. En gros, une heure de streaming chez vous, vous ne savez pas ce que ça représente en termes d'impact écologique. Si plutôt que de regarder un streaming, vous le téléchargiez la nuit, par exemple, pour le regarder le lendemain ou à un moment où il y a moins de monde, vous ne savez pas quel est l'impact de ça. Si plutôt que de le regarder en très très haute définition, vous le mettiez en définition dégradée, vous ne savez pas quel est l'impact de ça. Donc il y a une vraie mise en visibilité. De manière imagée, ce que j'appelle rendre visible l'invisible, toute cette dimension immatérielle. Il faut qu'on soit capable de la restituer à l'utilisateur. L'idée, ce n'est pas de tout remettre sur les épaules de l'utilisateur, de vous dire c'est vous les responsables. C'est évident que les fabricants ont une responsabilité. Les grandes plateformes de diffusion du numérique ont une responsabilité. C'est à eux de dire c'est quoi le poids écologique de vos services. Mais si on donne la capacité aux usagers, aux consommateurs finaux déjà, de savoir, c'est le préalable pour qu'ils puissent ensuite faire des choix. Donc voilà les deux premières grandes transformations que j'évoque. En gros, mettre des limites au numérique, ensuite transformer le numérique en tant que tel, le rendre plus vert. Et après, le dernier point sur lequel j'insiste, c'est vraiment mettre le numérique au service de la transition écologique. Et parmi les exemples les plus prometteurs, selon moi, là où on voit qu'il y a des choses intéressantes qui se passent, c'est quand on met les gens en relation, en fait. Et c'est Renaud Francou de la FING, Fédération Internet Nouvelle Génération, qui disait ça. Le pouvoir transformateur du numérique, il est probablement plus à rechercher du côté de la mise en commun des collectifs nouveaux qui vont se créer que dans la dimension purement technique. Et je partage pas mal cet avis. Un exemple très, très concret, l'autopartage. Les véhicules, vous pouviez les partager avec votre voisin. Rien ne vous empêchait de faire de l'autopartage, passer la clé à votre voisin quand vous n'utilisez pas votre véhicule. Sauf qu'à un moment, si on veut changer d'échelle, on voit que la couche numérique, elle est extrêmement puissante. Vous allez pouvoir partager un véhicule, en gros, avec plutôt 10 personnes. C'est ce qu'on observe sur les véhicules autopartagés aujourd'hui. Et le partager avec 10 personnes, quand vous ne connaissez pas ces personnes-là, c'est évidemment infaisable. Donc c'est une illustration du fait que le numérique, il peut être extrêmement puissant, il peut nous permettre de changer d'échelle. Mais ça illustre qu'il faut bien savoir ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que si on reste dans une logique, qu'on continue à promouvoir le véhicule individuel pour tous, mettre du numérique dans les voitures, faire des voitures connectées, ça ne sert à rien. La voiture autonome, si c'est juste pour dormir dans sa voiture et traverser la France tout seul dans sa voiture, ça ne sert à rien en termes de réduction de l'impact écologique. Par contre, si c'est pour faire un véhicule qui est une sorte d'hybride entre le transport collectif et le véhicule particulier, là, ça peut être intéressant. On va mieux remplir les voitures, et quand vous remplissez mieux la voiture, vous divisez par 2, 3 ou 4 la conso par voyageur transporté. Essayez de diviser par 4 la conso de votre moteur, je peux vous dire que c'est sacrément compliqué, si on arrive à avoir quelques dizaines de gains. Donc on voit que si on transforme nos manières de consommer collectivement, c'est bien plus puissant que si on attend des gains purement techniques. Et en ça, le numérique peut nous aider. Et je trouve que c'est le côté intéressant à penser du numérique, c'est comment il nous permet de repenser nos manières de consommer et de produire. Et de la même manière, un autre exemple qui peut sembler assez éloigné, mais qui, je trouve, illustre bien ce pouvoir-là quand même. J'ai évoqué le numérique qui nous permet d'optimiser les productions agricoles. En fait, si on veut vraiment réduire le poids environnemental de notre alimentation, ce qu'il faut, c'est changer nos régimes alimentaires. C'est pas optimiser un peu les intrants, c'est en fait consommer beaucoup moins de viande, être dans des circuits courts, plus de saisonnalité. Et pour ça, le numérique, il peut nous permettre de mieux mettre en relation des productions locales avec des consommateurs locaux, même si les AMAP n'ont pas attendu le numérique pour exister. Il y a des AMAP qui fonctionnent sans numérique. Mais à un moment, le numérique, là, il peut nous permettre de vraiment changer nos régimes alimentaires, parce qu'on va prendre conscience que 100 grammes de steak, ben, ça n'a rien à voir en termes de poids avec 100 grammes de protéines végétales. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de manger totalement du steak, mais ça veut dire qu'à un moment, il faut en manger moins, voire beaucoup moins, et de meilleure qualité. Donc voilà, je pense qu'il faut penser ces innovations sociales, comportementales, en lien avec le numérique, et ne pas penser que le numérique est une force de transformation un peu autonome, isolée, qui suffirait à nous mettre sur la bonne voie pour la transition écologique. Sachant, et j'en terminerai là avant d'échanger avec vous, sachant que dans pas mal de cas, le numérique renforce notre vulnérabilité. Aujourd'hui, il n'y a aucun système de production d'énergie, même des méthanisations, même des unités de méthanisation, même un poêle à bois, qui fonctionne, si les poêles à bois, vous devez en trouver encore quelques-uns, mais qui fonctionne sans une connectique, sans une interface numérique. Même pour produire des choses aussi basiques que de la chaleur. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec des équipements qui, dès lors qu'il y a une panne informatique sur le système numérique, ne sont plus capables de fonctionner. Et ça, c'est juste une vulnérabilité supplémentaire. Au départ, c'est censé faciliter un peu le pilotage, le fonctionnement du système, sauf qu'en pratique, c'est des équipements qui sont plus fragiles et qui risquent de tomber plus souvent en panne. Et ça, c'est vraiment un impensé qu'il s'agit de vraiment considérer, outre les questions de cybersécurité qui peuvent se poser à des échelles de grands réseaux et de systèmes techniques. Voilà un peu ce que j'essaie de développer dans mon ouvrage. Du coup, je vous propose d'en discuter si vous avez quelques questions maintenant.
Est-ce qu'on peut développer le thème « C'est des besoins réels et identifiés qui créent le développement du numérique » ou « C'est le développement fou du numérique qui crée les besoins »
Je pense que la question, elle vaut pas que pour le numérique, en fait, hein. Elle vaut pour la société de consommation de manière générale. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous oblige chacun individuellement à avoir une voiture, pour reprendre l'analogie que je faisais au début ? A priori, rien. On choisit bien d'acheter une voiture. Sauf qu'à un moment, on a construit des villes, on a fait des choix d'aménagement du territoire qui nous rendent totalement dépendants de la voiture, collectivement. Même si individuellement, je peux choisir de vivre sans voiture. C'est pas ça la question. Collectivement, on ne sait pas vivre sans voiture. Et sur le numérique, je pense que c'est la même chose. On peut faire des choix individuellement, poser des limites au numérique, on peut choisir de ne pas avoir de smartphone, etc. Donc de limiter les besoins. En pratique, on est quand même dans une société de consommation où le numérique, comme les autres objets techniques, en fait, s'inscrit. Et du coup, vous êtes matraqué en permanence pour acheter le nouveau smartphone, pour prendre le nouvel abonnement à telle plateforme numérique. Ouais, j'ai tendance à jamais voir les choses de manière trop binaire. Du coup, ça rend c'est pas toujours simple en termes de levier de dire, ben, il suffit d'appuyer là ou là. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on imagine des systèmes techniques qui soient plus résilients. Qu'on renouvelle moins souvent. Et donc, il y a des vraies choses à faire du côté des fabricants. Après, est-ce qu'ils vont attendre Samsung, Apple, Huawei, est-ce qu'ils vont tout seuls se dire à un moment, bah, tiens, c'est vrai qu'il y a un enjeu ? Non, je pense qu'il y a des collectifs, il y a des mouvements citoyens, il y a des associations comme Halte à l'obsolescence programmée qui font des actions en justice pour qu'il y ait un vrai travail qui soit fait sur la réparabilité de ce produit, sur la fin de l'obsolescence logicielle, etc. Il faut jouer à différents niveaux. Les besoins, ils émanent de nous, de ce qu'on exprime sur les marchés, et ils émanent évidemment des fabricants qui nous abreuvent de publicité en permanence.
Derrière ma question, il y a l'idée du nouvel Eldorado du data. En tant que ressource économique, le développement du numérique est en train de nourrir cet Eldorado du data. Je dirais, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces compteurs Linky et de ces voitures et d'un frigo connecté? Enfin voilà, où sont les vrais besoins et où sont les vrais pièges cachés de l'économie du data?
Si on poursuit du coup un peu sur ces objets-là, c'est clair que des dispositifs techniques comme Linky favorise clairement l'intégration des énergies renouvelables et la pilotabilité du système électrique. Dès lors que vous passez d'un système technique électrique où vous avez en gros 58 réacteurs nucléaires, plus quelques centrales thermiques, gaz, plus quelques centrales charbon et fuel. Donc en gros, vous avez une centaine de points de production dans le pays qui injectent et qui renvoient vers plus de 30 millions de foyers. Vous voyez comment il construit le système. Il est descendant, en gros. Dès lors que vous passez de ce système-là à un système où vous avez des centaines de milliers de productions photovoltaïques, ce qui est le cas aujourd'hui, à des millions demain, où vous avez des dizaines de milliers d'éoliennes, ce qui est le cas aujourd'hui, ce qui sera encore un peu plus demain, puisque dans les plus grands scénarios favorables à l'éolien, on va jusqu'à 30 000 ou 40 000. Vous voyez que vous avez plus de lieux de production, et pour mieux piloter ces lieux de production en adéquation avec la demande, oui, il y a des objets numériques qui clairement sont des interfaces utiles. Et Linky fait partie de ça. Après, les toilettes connectées, bon, vous voyez bien que ça va être d'aucun recours pour mieux intégrer les énergies renouvelables dans le réseau. Le frigo connecté, c'est un peu la même chose. Par contre, par exemple, avoir des équipements qui sont très fortement consommateurs, comme les chauffe-eau solaires, les chauffe-eau électriques, ou le chauffage électrique, être capable de piloter ces équipements-là, de les décaler d'un quart d'heure, par exemple de chauffer plutôt en fin d'après-midi avant que vous soyez rentré chez vous plutôt qu'au pic de consommation à 19h, ça va rendre potentiellement vraiment service au système électrique, et de la même manière avec les véhicules électriques demain. Aujourd'hui, les véhicules électriques, c'est 200 000 en France. On a des projections à 10, 15 millions à l'horizon 2035-2040. Il va falloir piloter ces recharges-là aussi. Et là, le numérique va être d'un grand recours.
L'écologie numérique, c'est bien, mais est-ce que ça ne serait pas mieux de parler d'écologie numérique décroissante ? Parce que l'idée, c'est d'abord de répondre aux besoins réels des populations avant de créer des besoins qui n'existent pas jusqu'à maintenant. Donc c'est un peu la limite du numérique, c'est qu'on va créer des besoins qui ne sont pas réels, et que en créant ces besoins qui ne sont pas réels, on va priver la personne de sa propre intelligence en la substituant avec l'intelligence artificielle que le numérique apporte. Et là, il y a un danger par rapport à l'humanité tout entière. Quand on voit ce qui se passe en Chine, on peut savoir si vous passez dans la rue, si vous êtes allé à tel endroit, ceci, cela. Donc il y a bien une limite, et il y a un moment donné où notre liberté est mise en jachère. Donc là il y a un danger qui est réel.
Ouais, alors c'est un point que je développe très, très rapidement, parce que je ne suis pas forcément un spécialiste de ces sujets-là, mais de manière générale, la question du respect de la vie privée, qui rejoint un peu la question des données, hein, la question de la souveraineté, aussi numérique, sont des questions centrales. Ça fait partie de ce que moi j'ai appelé les obstacles, ce qui constitue clairement des freins aujourd'hui à une transition numérique, on va dire, au service de tous. Le système de crédit social chinois où on est en train de mettre en place un système panoptique de contrôle de la population où vous ne serez plus autorisé à prendre le train si vous avez payé en retard vos impôts, si vous avez mal traversé dans la rue, etc. Enfin, des choses qui sont quand même assez effrayantes et qui sont en train d'être testées dans plusieurs villes. Ça, c'est grâce au numérique, donc ça fait clairement partie des choses les plus effrayantes. Donc la question de la décroissance de ces systèmes-là peut se poser, effectivement. Après, pour revenir sur la question des besoins, vous l'évoquiez un peu tout à l'heure, moi j'ai tendance à pas penser que la question des besoins, elle est figée, elle est stable. Elle évolue selon les sociétés dans lesquelles on est, et même dans des sociétés pré-industrielles, voire préhistorique, je pense que c'est pas si simple que ça, pas si trivial de se dire, En fait, il y a des besoins de base qui sont de manger, de se chauffer, d'avoir un toit. Et les exemples que j'aime bien prendre, en fait, qui sont un peu caricaturaux, mais est-ce que vous croyez que les peintures dans les grottes de Lascaux, c'est une fois que nos prédécesseurs avaient suffisamment de nourriture stockée pour les mois qui venaient, avaient un toit, avaient une visibilité sur le long terme, qui se sont dit, tiens, maintenant on a un peu de temps pour nous, du coup on va peindre sur les murs. En fait, non, il y a des besoins culturels, esthétiques, de recherche de sens, qui sont, je pense, assez permanents, qui sont propres de l'humanité, et qui s'expriment sous différentes formes. Et du coup, je pense que la question des besoins, on va dire, de base, elle est extrêmement difficile à définir. Par exemple, l'accès à la connaissance permis par le numérique, avec des choses comme Wikipédia, c'est des choses qui sont quand même vraiment extraordinaires, quoi. Donc voilà, c'est juste pour dire cette question des besoins, en fait, elle n'est pas figée, et elle n'est pas définie une fois pour toutes. C'est des choses qui évoluent.
Je ne mets pas sur le même registre les besoins tels que je l'ai évoqué et le recherche et développement, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Bonsoir. Alors, du coup, comme en tant que spécialiste de l'énergie, j'ai une question pour vous concernant les data centers. On sait que la progression des data centers en France, notamment, est... Oh, pardon. Est-ce que vous m'entendez mieux, là ? Donc on sait que la progression des data centers en France et dans le monde est en progression. Il y a une utilisation qui est faite de ces data centers, c'est de créer de l'énergie, notamment de réchauffer certains bâtiments. Vous, en tant que spécialiste de l'énergie, qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet-là ?
Alors, on commence à avoir quelques belles réalisations en France. On a des piscines qui sont chauffées avec de la chaleur perdue, de la chaleur fatale de data centers. On a des data centers qui sont connectés à des réseaux de chaleur. La difficulté, c'est qu'on se retrouve avec d'un côté un monde numérique qui a des temporalités de croissance qui sont proprement hallucinantes, quoi, qui est dans une dynamique de croissance exponentielle, avec des renouvellements. Je disais, le maximum des data centers, c'est 10 ans. On est plutôt sur 7-8 ans en moyenne. Donc vous avez d'un côté ce monde-là, et de l'autre côté, vous avez les gestionnaires de chauffage urbain ou de grands équipements comme les piscines, qui sont les collectivités, qui investissent pour des dizaines d'années. Et en fait, ça, c'est un vrai sujet, et parmi les manières de le résoudre, c'est des data centers qui appartiennent aux collectivités. Par exemple, à Paris, c'est le choix qui a été fait. Parce que vous voyez bien que si on dit on construit un réseau de chaleur qui va être amorti sur 30 ou 40 ans pour distribuer de la chaleur sur l'agglomération, aux grands équipements ou aux ménages, et qu'en face on a des gens qui nous disent « Ouais, nous on met des data centers, par contre on vous garantit que pendant 7 ans on vous fournit X mégawattheures, par contre dans 10 ans on n'en sait rien ». Du coup c'est difficile parce qu'on a cette inadéquation entre les temporalités du monde de l'énergie, qui sont vraiment les temporalités longues, avec des systèmes très capitalistiques, très inertiels, et de l'autre côté, le monde du numérique, qui est dans des courbes de croissance exponentielle, et il dit, moi, dans 10 ans, j'en sais rien, j'aurais fait x4 ou x10 sur mes infrastructures. Et... Donc, c'est des choses qui sont très prometteuses, notamment pour chauffer des bâtiments, chauffer des grands équipements. On commence à avoir de belles réalisations, mais aujourd'hui, on a vraiment cette difficulté-là, c'est-à-dire que si on ne trouve pas des modes de travail en commun, c'est compliqué d'avancer concrètement. De toute façon, ça ne peut pas être la source unique sur un réseau de chaleur, mais les réseaux de chaleur qui se font aujourd'hui, qui sont des réseaux de chaleur, on va dire, modernes, vous en avez un, par exemple, à Amiens, vous avez 4 sources d'énergie primaire différentes. Vous avez du biogaz, vous avez de la récupération de chaleur sur les eaux usées, vous avez du solaire... et vous avez du bois énergie à côté. Donc vous pouvez avoir en plus de la chaleur issue de data center qui va permettre d'économiser du gaz ou du bois, et vous aurez la flexibilité avec le reste, quoi.
Bonjour, qu'est-ce qui fait que ces data centers ont une durée de vie aussi courte que ça ? On ne sait pas faire autrement ?
Techniquement, je ne saurais pas vous répondre, ouais. On sait faire en partie autrement. OVH, typiquement, se positionne, qui est le principal hébergeur européen. Lui met en avant le fait qu'il fait du free cooling, donc en gros il climatise pas, il est dans un système de rafraîchissement naturel de ses data centers et qu'il les répare plutôt qu'il ne les remplace, ce qui n'est pas censé être la norme dans le secteur. Et il fait partie du coup des hébergeurs qui ont les meilleurs indices de performance énergétique de leur data center. Pourquoi on les renouvelle aussi régulièrement? D'un point de vue technique, je ne saurais pas vous répondre. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est les volumes, la croissance des volumes de données qu'il y a derrière, qui justifie le fait d'avoir des capacités qui augmentent au-delà du renouvellement. Il y a quelques années, vous aviez des forfaits de quelques centaines de mégas. Aujourd'hui, c'est des forfaits de centaines de gigaoctets. Donc, on charge d'ordre de grandeur. Ça illustre le fait qu'on a des usages de plus en plus intensifs en données, notamment avec la vidéo, et que tout ça, ça consomme beaucoup de ressources, à la fois dans votre téléphone, mais aussi sur des data centers pour être hébergé. Donc, il y a les équipements qu'il faut changer parce que ça s'use, qu'il faut les renouveler, et puis il y a le fait qu'il en faut de plus en plus parce qu'on a des volumes de données qui croissent de manière exponentielle. Et là où on a potentiellement des choses qu'on ne sait pas trop qualifier aujourd'hui, mais qui sont potentiellement assez effrayantes, c'est autour du véhicule autonome, quoi. Un véhicule autonome, potentiellement, c'est une démultiplication des données échangées considérable.
Juste pour ajouter, je pense qu'on peut répondre en partie à la question. Je ne suis pas spécialiste, mais je crois que c'est surtout la vitesse. Il y a une course à la vitesse dans le monde du numérique qui est hyper importante, d'où la 5G aussi. Et je pense que c'est ça qui fait que les data centers doivent être changés régulièrement. C'est que je pense que les infrastructures matérielles n'arrivent pas à suivre la vitesse qui va vraiment de plus en plus vite. Et je pense que c'est ça l'un des points importants des renouvellements de data centers.
Après, de manière générale, cette remarque, elle vaut pour tous les terminaux. Hein. Ce qui fait que c'est très difficile de garder votre smartphone 4, 5, 6 ans, c'est qu'à un moment, vous allez mettre 45 secondes pour accéder à la météo, quoi. Pour afficher un pictogramme, parce qu'on va vous mettre une publicité de vidéo de 10 secondes, etc. Et que soit vous suivez le rythme de l'ensemble de l'infrastructure, soit vous ne le suivez pas, et à ce moment-là, votre service, il est insupportable, quoi.
Bonsoir. Moi, j'avais une question autour de l'email et de l'impact de l'email d'un point de vue écologique. Je pense que ça rejoint aussi les data centers avec, parce que vu qu'on consulte maintenant nos mails sur des webmails, ils doivent bien être stockés quelque part. Et j'avais entendu aussi qu'un email non lu consommait, enfin, avait un impact plus fort, un impact écologique plus fort qu'un email lu. Donc je ne sais pas si c'est vrai, donc je voulais avoir votre avis là-dessus.
Alors, à l'ADEME, on avait fait des évaluations de mails il y a quelques années. En fait, ça évolue tellement vite que c'est difficile de vous donner des chiffres aujourd'hui. On a un gros projet qui s'appelle NegaOctet, qui vise à qualifier les impacts environnementaux de différents services numériques. Donc typiquement, une heure de streaming, typiquement un mail avec une pièce jointe de 5 mégas envoyé à une personne ou envoyé à 25 personnes ou envoyé en copie de la Terre entière, soit en filaire chez vous, soit en 4G, etc. Et c'est ce qui fait que c'est extrêmement difficile de répondre, vous voyez, parce que tant que vous n'avez pas précisé toutes ces hypothèses, vous avez potentiellement un impact qui varie de 1 à 10. Quoi. Vous pouvez retrouver ces études sur le point domain. Le problème, c'est que les infrastructures et puis les équipements et les terminaux ont très vite évolué dans des sens à la fois d'optimisation, parfois. De manière caricaturale, vous êtes passé d'un PC avec une tour fixe à un PC portable, ça consomme beaucoup moins, voire 2 ou 3 fois moins. En parallèle, vous êtes passé d'un écran 15 pouces à un écran 20 et quelques, ça consomme beaucoup plus. Et c'est tout ça qui fait le poids de votre mail, en fait. Voyez, votre mail, si vous le lisez là-dessus, ou si vous le lisez sur votre écran de 20 pouces, mais ça n'a pas le même impact. Donc c'est un peu décevant comme réponse, mais ça illustre le fait que c'est un gros chantier sur lequel, du coup, plusieurs acteurs sont en train de travailler aujourd'hui et il y aura des réponses rapidement, mais c'est loin d'être simple. Et un exemple que je prenais, j'étais invité à la Terre au Carré sur Inter il y a quelques mois, un exemple que je prenais pour illustrer la difficulté de répondre de manière toujours simple. Est-ce que, en gros, il vaut mieux
imprimer votre facture ou un livre, ou est-ce qu'il vaut mieux le lire sur votre smartphone ou sur votre PC? Là encore, sur votre PC, vous allez lire sur un grand écran, donc vous allez plus consommer. Sur votre smartphone, vous allez utiliser de fait des terres rares, des matériaux, de l'électricité, vous allez user un équipement. Donc vous pouvez avoir à un moment un bilan en analyse de cycle de vie qui est meilleur en termes d'équivalent CO2 émis. Sauf que ce qui rend la comparaison très difficile, c'est que vous comparez d'un côté un objet qu'on est incapable de recycler intégralement, un smartphone, à de l'autre côté un objet, une feuille de papier, qu'on est capable de recycler intégralement. Voilà, donc je réponds en complexifiant encore un peu plus. De manière assez simple, vous donner une ligne de conduite. Si vous avez un gros document que vous allez consulter régulièrement, il vous vaut mieux l'imprimer. Si c'est un document que vous allez consulter une fois et ensuite archiver pour revenir le chercher dans 2 ou 3 ans, il vous vaut mieux l'enregistrer, ne pas l'imprimer, et l'enregistrer plutôt en dur, sur un disque dur physique, que dans le cloud avec des multiples copies, démultipliées, parce que c'est comme ça que ça se passe.
Je connais un candidat à la mairie de Paris qui veut faire de Paris la capitale de l'intelligence artificielle et qui veut faire du nettoyage, le nettoyage automatisé à Paris, etc. Et ce candidat est un mathématicien en plus. Donc, est-ce que vous pouvez en dire quelque chose de tout ça?
Alors, de son programme, non, mais en tout cas, dans le rapport Villani sur l'intelligence artificielle, il y a plein de choses très intéressantes sur la souveraineté, notamment sur le fait de rendre les algorithmes transparents. Ça fait partie des exemples que je cite pour illustrer à quel point le numérique peut être détourné justement pour tricher, donc non pas pour être mis au service de la transition énergétique, mais c'est le Dieselgate, vous vous rappelez de ça? C'est les constructeurs automobiles qui ont en gros truqué leur logiciel pour passer leurs essais dans des conditions optimisées pour passer les essais avec les normes de pollution à respecter, et qui en usage réel se comportent tout à fait différemment. Bon, tout ça se passait pourquoi? Parce que vous n'avez pas accès aux algorithmes de fonctionnement, d'optimisation des véhicules. Si demain, on rendait tout ça public, vous voyez que c'est beaucoup plus difficile. Tout un chacun n'est pas capable d'aller lire ce que ces programmes-là signifient. Mais les spécialistes sont capables de nous dire, là, vous avez des industriels qui vous mettent en place des trucs qui visent juste à passer les tests de manière optimale, mais qui, dans la réalité, se comportent tout à fait différemment. Donc, sur toutes ces questions-là, il y a des choses assez intéressantes dans le rapport Villani. Après, l'intelligence artificielle à Paris, moi, je ne suis pas parisien, donc je n'ai pas trop d'avis.
J'imagine que vous avez dû faire des recherches de l'agrégation de ressources énormes pour écrire cet ouvrage. Et on dit qu'un ouvrage en appelle un autre. Quelles sont les grandes questions qui restent en suspens et qui méritent d'être approfondies pour vous? Déjà, c'est une première question. Et ensuite, comment est-ce que votre travail sur ce livre a pu potentiellement modifier votre propre comportement vis-à-vis du numérique et de vos propres usages personnels de ces outils? 2 questions en 1.
Alors, sur les questions purement écologiques... J'ai un peu répondu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites par les acteurs pour vraiment rendre visible tout le poids environnemental du numérique, qu'on arrive à qualifier en termes macro, mais plus difficilement quand on descend à des échelles notamment individuelles. Donc ça, c'est un chantier qui est en cours. Là où il me semble qu'il y a un vrai enjeu, je l'ai évoqué rapidement, c'est sur les questions de dépendance et de vulnérabilité de nos systèmes techniques. Est-ce que si demain, on a, imaginons, des situations de crise liées à un piratage, liées à une panne gigantesque, je ne sais pas quelle autre crise, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur le coronavirus illustre un peu ça, c'est-à-dire qu'on a des choses qui, en tant que telles, sont assez... insignifiante en tant que telle d'un point de vue sanitaire, mais qui ont des impacts considérables sur nos sociétés, quoi. Et sur le numérique, il y a des choses un peu de cet ordre-là qui pourraient se passer. Je pense du coup qu'il y a un vrai intérêt à travailler sur des modes d'organisation, notamment des systèmes plus décentralisés, qui seraient plus résilients, alors qu'aujourd'hui on est dans des logiques qui sont plutôt des grandes logiques de concentration, où on a quelques plateformes que tout le monde utilise, qui sont gérées dans des logiques internationales, où on a des data centers au nord de l'Europe, on a des câbles qui traversent l'Atlantique, tout ça. Bon, tout ça correspond à une certaine logique, mais ce n'est pas forcément comme ça que le numérique a vocation à perdurer ad vitam aeternam. Et puis la deuxième question... qu'est-ce que j'ai changé depuis... Bah, c'est des choses qui viennent... parce que c'est un travail au long cours, comme je le disais. Le début du livre, en fait, c'est les premiers billets que j'écris sur mon blog il y a 5 ou 6 ans. Qui aboutissent à un livre fin 2019. Donc tout ça, c'est une réflexion au long cours. Moi, le point qui me semble vraiment important, c'est collectivement et individuellement se dire posons des limites. C'est vraiment un super outil, mais en fait, le numérique partout, tout le temps, c'est juste un non-sens. Et je pense qu'on est juste en train de comprendre ça. Là aussi, je refais une analogie avec la voiture, j'aime bien. Il y a 50 ans, on disait il faut adapter la ville à la voiture. Plus personne ne dit ça aujourd'hui. Est-ce que vous avez un seul candidat au municipal ici qui vous dit on va élargir les rues, on va fluidifier tout ça, vous inquiétez pas, ça va rouler. Bon, il y en a quelques-uns à Paris qui disent on va fluidifier le trafic. Non, ils n'ont jamais compris que le trafic fluide en ville, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Que ce soit avec les calèches dans les années 70 ou aujourd'hui, ça n'existe pas. La congestion, c'est le mode de régulation en ville. Donc cet exemple pour dire, aujourd'hui en gros, on a compris que la voiture pour tous tout le temps, ça ne marche pas. Et on n'a pas compris ça pour le numérique. On continue à penser que le numérique tout le temps, pour tout faire, c'est génial. Et je pense que non, qu'à la fois collectivement et individuellement, ça fait du bien à des moments de dire stop, là ça sert à rien. Là il y a des alternatives qui sont plus agréables, plus efficaces. Voilà, donc c'est une manière un peu détournée de répondre, mais...
Bonjour. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion. J'entends rarement parler d'une des limites que moi je vois à l'utilisation du numérique, c'est la charge mentale des utilisateurs. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ras-le-bol.
Ouais, c'est pas non plus mon cœur de... Enfin, le cœur de mon analyse. Mais ça fait partie des sujets un peu périphériques, comme la question de la souveraineté ou la surveillance qui se met en place. Et il y a un bouquin qui est assez intéressant là-dessus, qui remet ça aussi en perspective assez macro. C'est « Pour une écologie de l'attention » de Yves Citon, qui est assez intéressant et qui permet de mettre ça aussi dans une perspective plus large, en se disant que tout ça, ça répond à des modèles économiques. Qui préexistait avant le numérique, en fait. Sauf que le numérique accentue ça, parce que le smartphone, c'est génial pour plein de choses, mais ça vous suit partout. Regardez le nombre de personnes qui allument leur smartphone avant d'aller déjeuner le matin, quoi. Vous avez des enquêtes qui sortent là-dessus, qui prennent les smartphones dans la chambre, aux toilettes, enfin, c'est non-stop. Et du coup, à des moments, évidemment, on dit stop. Et je pense que c'est important de dire stop. Ouais. Donc voilà, c'est pas le cœur de ma réflexion, mais ça fait partie un peu, quelque part, de... Cette écologie au sens générique.
Oui, ouais, bon, enfin, ça fait toujours du bien de parler, mais je crois que le combat est perdu, quoi. Moi, franchement, enfin, non, mais on peut rigoler, mais je pense que l'être humain est en détresse absolue. Il le sait pas encore, mais je pense qu'il est en détresse absolue. Quand on voit l'ensemble des situations, on ne peut que constater que on va dans une impasse, quoi, une impasse humaine et industrielle. Quand on voit la 5G qui se met en place, qu'il va falloir acheter tous nos smartphones pour prendre un nouveau smartphone dans un an, quand on voit tout ce qui est en train de se faire au niveau de la planète, quand on a une vision totale des choses, on pense que ça peut pas, on va pas continuer comme ça. On va dans une impasse. Nos gouvernements sont des climato-sceptiques. Ils prônent la croissance économique à tout craint. Comment voulez-vous qu'on ne va pas s'en sortir? Nous, à notre niveau, moi, j'essaye de faire le tri, le compost, vous voyez, des petits trucs comme ça à mon niveau. Mais en haut, ils font tout le contraire. Donc, il faudrait faire comme ça, comme ça, comme ça. Et personne ne veut faire comme ça, comme ça. Les petits jeunes, ils sont tous en train de défiler contre le climat, pour le climat plutôt. Et puis, à la sortie, ils ont tous un smartphone qui consomme plus d'électricité. On sait très bien que la 5G va faire des centrales nucléaires en plus pour y mettre en place. On sait très bien que c'est pas possible.
Non,
c'est pas gérable. C'est pas gérable.
Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. C'est pas ce que je vous ai dit. Hein. C'est bien le point de départ et le constat. On n'est pas sur la bonne voie. Après, mon propos, c'est d'essayer de dire que tout n'est pas joué et justement qu'on peut faire des choses. Ce qui est sûr, c'est que si on reste... C'est sûr que si on reste collectivement... En gros, si on pense que le rapport de force, c'est les GAFAM d'un côté et moi, citoyen individuel, de l'autre côté, évidemment que le rapport de force, il est perdu. Sauf qu'il y a plein de choses qui se jouent dans les interstices. Je vous ai cité tout à l'heure l'association Halte à l'obsolescence programmée qui porte plainte contre les fabricants numériques pour obsolescence logicielle, etc., contre les fabricants d'imprimantes pour obsolescence programmée. Il y a des choses qui jouent, mais à un moment, il faut constituer des collectifs. Ça veut dire qu'il faut repolitiser ces questions au sens noble. Donc voilà, je répondrai juste en disant c'est sûr qu'on n'est pas sur la bonne voie. On fait quand même partie des sociétés qui, dans le temps et dans l'espace, donc en France aujourd'hui en 2020, avons quelques capacités à influer sur ce qu'on consomme et la manière dont on peut consommer. Donc, il faut essayer de se saisir de ces leviers-là. Mais c'est sûr que ça ne se joue pas qu'à notre échelle individuelle, ça ne se joue pas qu'à l'échelle du politique. Il y a plein de choses à jouer dans les interstices et dans les niveaux intermédiaires, et notamment avec les collectifs de citoyens, les associations, etc.
Bonsoir. Je suis assez d'accord avec la vision techno-défaitiste qui vient d'être énoncée, et j'aime bien votre réponse. Et pour faire une analogie, moi aussi, je pense que par rapport à ce que vous avez dit au début, que la voiture, la ville a été pensée face à la voiture et que collectivement, on ne peut pas s'en passer, c'est aussi une question de quel choix de combat on veut faire. Si on est suffisamment nombreux pour à dire je refuse de prendre la voiture pour aller au travail, ben on va marcher au milieu des routes et puis voilà. Et la ville qui est faite pour la voiture, ben on se la réapproprie et puis elle sera à nouveau faite pour nous. Et on refusera d'aller à un travail qui est situé à plus de 2 km parce qu'on va pas marcher autant et on va refaire la société à notre image et pas à l'image de celle qui a été créée pour nous. Bon. Et pour une autre analogie, en fait, j'ai l'impression que un peu tout votre discours que je trouve intéressant et tout, mais j'ai l'impression que c'est en gros aucune technologie n'est mauvaise en soi et c'est l'usage qu'on en fait qui peut la rendre mauvaise. C'est un peu ça que j'ai compris. Et ce qui est vrai pour le numérique, comme c'est vrai pour plein d'autres choses. On a parlé tout à l'heure de la surveillance en Chine. Du numérique qui permet la surveillance en Chine, oui, c'est vrai, mais bon, la forge, c'est la même chose. Si on forge une lame en acier pour couper du blé pour se nourrir, c'est super, et si on forge les mêmes lames en acier pour armer des soldats qui vont contrôler les villes et qui vont empêcher les citoyens d'agir à leur gré et qui vont collecter un impôt, une taxe démentielle pour nourrir le Seigneur, c'est une horreur. Donc c'est la même chose, et ce qui est le vrai problème, il n'est pas dans le numérique ou dans la décroissance ou dans je sais pas quoi. Le vrai problème, il est dans le fait qu'il faut pas se laisser faire, quoi. Enfin,
c'était pas trop une question, ouais. Mais tu peux.
C'était pas trop une question, peut-être pour. Non, je pense pas du tout que la technique soit neutre. Hein. Je pense que la technique, elle embarque des intérêts qui sont pas toujours exprimés, mais. Elle embarque des visions du monde, des visions culturelles, etc. Et donc non, tout dépend pas de l'usage qu'on a fait. Non, la technique, elle permet pas tous les usages. La technique, c'est une certaine mise en œuvre de connaissances scientifiques, mais la technique est pas neutre, non, je pense pas.
Moi, pour rebondir sur ce que le monsieur disait, c'est vrai que parfois on peut être un peu défaitiste par rapport à l'ère numérique, l'impact qu'elle a sur notre société. Et je ferai un parallèle sur l'histoire. Moi, j'ai l'impression, par rapport à tous les exemples que vous avez évoqués, la société du tout voiture, aujourd'hui c'est la société du tout numérique. À une époque on changeait de voiture tout le temps, aujourd'hui on change de téléphone tout le temps. Est-ce que finalement, par rapport à toutes ces erreurs peut-être qu'on reproduit sans arrêt, une solution ce serait pas justement de ralentir pour une meilleure écologie par rapport au numérique, pour justement pouvoir prendre de meilleures décisions, apprendre à mieux utiliser tout ce qu'on a au quotidien.
Si la question de la vitesse, ça rejoint un peu, je sais plus en quel terme vous l'aviez exprimé tout à l'heure, mais la saturation et je pense qu'on peut faire le constat dans pas mal de domaines, notamment dans la mobilité, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, la vitesse en permanence, ça a un tas d'effets et d'externalités négatives qui font qu'on se rend compte que c'est pas ça en fait qu'il faut rechercher. Ce qu'il faut rechercher, c'est les aménités, le service en tant que tel. Je pense qu'on commence à questionner ces questions-là dans pas mal de domaines et on reste quand même une société construite autour de la vitesse. La vitesse est une valeur positive, mais on commence à le questionner à plein d'endroits. Et les débats sur les municipales illustrent un peu ça aussi.
Est-ce qu'on va avoir des robots qui vont garder nos enfants à l'avenir? Parce que on peut se poser la question.
Ben, si on a envie de confier nos enfants ou nos anciens à des robots, ouais, ça coûtera peut-être moins cher. Mais après, c'est vraiment une question. Ça illustre à quel point c'est une question de société, quoi. Est-ce qu'on a envie de s'occuper des autres ou est-ce qu'on a envie de déléguer ça à des robots, même si ça en coûte moins cher?
Ah, merci à notre conférencier, Eric.